Jean Diret des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est la journée mondiale de la radio aujourd'hui, une occasion rêvée pour partager avec vous la passion qui anime tous ceux qui ont, comme nous, la chance de se trouver du côté du micro ou de la console qui va avec. Que de bonnes ondes donc aujourd'hui dans VMDN, avec une bande dessinée qui nous fait revivre la France de la fin des années 70, celle de l'incroyable aventure des radios pirates, des radios montées avec un petit émetteur, un magnéto et une antenne sur les toits de Paris, en toute illégalité, puisqu'à l'époque, les ondes étaient encore monopole d'État. Une plongée politique et musicale dans une France d'un autre temps et l'amorce d'une petite révolution, la révolution des ondes qui allait déboucher sur les radios libres et dessiner peu à peu le paysage radiophonique d'aujourd'hui. Voilà ce que nous racontent Jeanne Puchol et Laurent Galandon dans Interférence, un album de BD paru chez Dargo, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Vous avez déjà publié Vivre en mourir, qui racontait le destin de Marcel Reymann, un résistant du groupe Manoukian. Pourquoi Jeanne Puchol racontait aujourd'hui l'histoire des radios libres?
Eh bien, parce que j'aime beaucoup travailler avec Laurent Galandon, d'une part. Donc, quand il m'a proposé ce projet et ce sujet, évidemment, ça m'a interpellé. Ça m'a d'autant plus amusé que lui, étant plus jeune que moi, il n'a pas vécu cette période-là. Et moi, ayant l'âge de l'avoir vécu, je ne l'ai pas vécu parce que je n'écoutais pas ces radios pirates à l'époque. Mais en revanche, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pu nourrir la bande dessinée et le dessin de mes propres souvenirs de ces années 70 que j'ai vécu, en ayant l'âge des protagonistes.
Alors, c'est le récit d'une aventure un peu folle, le récit d'une amitié entre deux jeunes garçons, deux étudiants issus de milieux très différents, qui s'appellent Alban et Pablo. Alors, Alban, on va commencer par lui. Laurent Galandon, c'est le fils de bonne famille qui s'est révolté contre ses origines, quoi. C'est un petit peu ça.
Oui, voilà, c'est l'archétype, on va dire, un peu de l'étudiant qui réfute ses origines sociales, qui veut vraiment aller à l'encontre du diktat dans lequel il a été inscrit depuis sa toute jeune enfance, quoi.
Voilà. Oui, c'est en réaction à son milieu bourgeois. C'est un militant, c'est un idéologue aussi.
Alors, c'est plutôt un militant, peut-être un idéologue finalement. On pourrait presque le
parce que son combat, qualifier. Il le nourrit aussi de lecture. Il a une façon de fonctionner qui est quand même très ancrée dans une idéologie.
Oui, et puis il veut aller de plus en plus loin. C'est-à-dire que il va commencer à d'abord donner la parole à des gens qui sont des marginaux, on va dire, ou des gens qui ont peu la parole. Et puis petit à petit, ça va se politiser de plus en plus. Puisqu'il va dénoncer les massacres d'octobre,
Répression policière,
la répression policière. Il va s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le terrorisme de l'extrême gauche. Enfin voilà, donc petit à petit comme ça, effectivement, il va aller sur des terrains qui seront de plus en plus tendancieux pour le pouvoir en place.
Voilà, son copain Pablo, lui, c'est pas tellement la politique qui l'intéresse, c'est d'abord la musique, et ça peut surprendre parce qu'on apprend quand même au début de l'album qu'il serait le fils d'un militant anti-franco en Espagne d'ailleurs, donc son copain Alban est vraiment très content de l'avoir comme ami pour cette raison-là, mais c'est vraiment la musique qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse dans la radio libre, c'est de faire découvrir ses goûts musicaux qui sont des goûts plutôt anglo-saxons, quoi, alors qu'on est dans une période où les radios publiques diffusent surtout de la variété française.
Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, le principe de ces deux personnages, c'est qu'à eux deux, avec leur personnalité et leur orientation, on va dire, ils sont assez représentatifs des mouvements des radios pirates à cette époque.
Donc la musique et l'engagement politique à gauche.
Exactement. C'est une à travers eux, l'idée était de représenter les deux grandes tendances qui animaient le débat des radios pirates à cette époque.
Alors, Jeanne Puchol, on est sous Valéry Giscard d'Estaing, on est dans la deuxième partie des années 70. Ça semble très loin aujourd'hui, c'est pas si loin que ça quand même. À peine 40 ans, à l'époque, la radio et la télévision sont monopoles d'État, mais attention, il y a quand même ce qu'on appelle les radios périphériques qui émettent donc depuis l'extérieur du pays et que le français moyen peut capter.
Alors, c'est amusant que vous disiez ça, parce que moi j'étais donc adolescente dans ces années-là, je me souviens très bien, j'avais 17 ans quand Valéry Giscard d'Estaing a été élu en 74, on n'avait pas encore le droit de vote à 18 ans je crois à cette époque-là, et notre prof d'histoire nous avait fait voter comme si on avait pu avoir le droit de vote à ce moment-là. Donc c'est en fait, bien que ce soit assez lointain, c'est quand même très proche dans mon souvenir.
Oui.
À la maison, donc j'habitais encore à l'époque avec mes parents et mon frère, il y avait la radio presque en permanence. Mon père père avait pris cette habitude parce qu'on quand j'étais gosse, on était sans doute dans un immeuble assez bruyant, donc il avait pris l'habitude d'avoir la radio en permanence. J'ai pas souvenir qu'ils écoutaient les périphériques.
En fait, alors les périphériques, donc c'est les radios qui émettent effectivement de la périphérie. Voilà. Europe numéro 1 à l'époque devenue Europe 1, RTL, Radio Monte Carlo un peu plus tard.
J'ai le souvenir qu'ils écoutaient principalement France Inter et France Musique, France Culture, je crois pas.
Donc les radios du service public,
les radios d'État,
comme dirait notre ami Alban.
Et entre autres, le fameux pop club de José Arthur, où on ne passait pas clo-clo, mais de la musique anglo-saxonne, alors certes plus soft que celle que propose Pablo, enfin, ou celle qu'il va écouter dans le magasin, chez le disquaire, à qui il emprunte des disques pour les passer à la radio. Et ce côté déglingué et bricolé de ces radios, ce genre de petits détails dans le scénario de Laurent, moi, m'ont touché parce que ça m'a vraiment rappelé toute une époque où on faisait les choses de briques et de broc, et je me suis dit, c'est tellement plausible, un jeune type qui y va au flanc, qui va chez son disquaire préféré et qui emprunte des disques pour les passer à la radio et qui les rapporte après. C'est exactement ça, je crois.
Vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles. Sur RFI.
Avec Jeanne Puchol et Laurent Galandon pour leur album de bande dessinée Interférence, paru aux éditions d'Argo. Alors le récit, et c'est un clin d'œil assez savoureux justement, mais intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, Jeanne Puchol, commence et se termine par deux cases quasiment miroirs, hein, qui représentent la maison de la radio, autrement dit le temple du service public monopolistique à l'époque de l'histoire. Et la narration est conduite d'ailleurs comme une émission de radio. En fait, c'est une interview d'un ancien des radios libres dans un studio de Radio France qui constitue le fil de votre récit, Laurent Gland.
Oui, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'était de repositionner le... Alors, ça a aussi un objectif d'intrigue narrative, si je puis dire. Mm-hmm. Donc vraiment pour créer tout un suspense.
Oui, parce qu'on ne voit pas la tête de celui qui parle et on la découvre à la toute fin de l'album.
Voilà, donc le lecteur se doute très rapidement que l'un des deux invités est l'un des protagonistes de notre histoire, voilà. Mais on ne le saura que à la fin de l'histoire qui ils sont exactement. Et effectivement, aujourd'hui, pour le coup, alors comme l'a souligné Jeanne, moi à cette époque-là, j'étais tout petit, hein, j'avais 7 ans, donc moi j'ai été élevé à coup d'RTL, hein, même après les radios libres,
on n'en choisit pas, Jeanne.
Attendez, c'est la première Radio de France aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le groupe Radio France et on peut quand même estimer relativement libre, je pense, dans ses propos. Après, on peut discuter un certain nombre de petits points, probablement, mais comme il y aurait sur n'importe quelle antenne.
Alors, cette aventure que vous nous contez, c'est celle de Radio Nomade. Alors, on le disait, hein, ils émettent évidemment en illégalité. C'est deux jeunes garçons. Ils prennent un pseudo, Rakam et Teach. Hein, et ils émettent à chaque fois dans un lieu différent pour brouiller les pistes. C'était un vrai risque, hein, à l'époque. On se rend pas forcément compte aujourd'hui.
Alors ça a été progressif. Alors d'abord peut-être pour l'anecdote, en fait, toutes les radios qui sont évoquées dans l'histoire ont existé. Donc Radio On Se Débrouille, Radio Fil Rose et bien d'autres. Radio Nomade est une radio inventée pour le coup, comme le sont les protagonistes. Alors concernant le principe de la répression, on va dire ça a été progressif. C'est-à-dire qu'il y a dans un premier temps essentiellement TDF qui est chargé de brouiller les émissions, donc avec une espèce de son comme ça très grave qui vient se coller sur les émissions pour qu'elles deviennent inaudibles. Et puis mais ça va pas suffire, c'est-à-dire que les radios pirates vont continuer à se développer parce que finalement c'est tellement léger en termes d'infrastructure que va y en avoir de plus en plus. Et là, va être promulguée la loi Le 4
du nom du ministre de la Culture de Valéry Giscard d'Estaing.
Ouais, exactement. Et là, par contre, on va rentrer dans un système de répression réelle, c'est-à-dire que la police va rentrer dans le jeu. Donc, va y avoir des arrestations, du matériel de détruit, des gardes à vue, des menaces. Voilà. Dans la réalité de ce que j'ai pu en lire, il n'y a jamais eu de peine de prison actée. Alors, peut-être que je pourrais me tromper, mais a priori il n'y a pas eu de peine de prison, mais il y a eu des tas de problèmes comme ça où la police est vraiment rentrée dans le jeu, les renseignements généraux étaient là, il y a eu des gens sous écoute, c'était vraiment assez fort.
Alors on va rentrer un petit peu dans le vif de l'histoire, une histoire qu'on peut aussi écouter puisque vous avez adapté Laurent Galandon grâce aux moyens techniques de Radio Méga, une radio associative de Valence, la bande dessinée, vous l'avez vraiment mise en onde, hein, en quelque sorte, avec une version audio réalisée par Raphaël Terribilé, que l'on peut découvrir d'ailleurs grâce au QR code, hein, que l'on peut comme ça scanner et qui se trouve à la fin de l'album. On va écouter un extrait qui correspond aux pages 76 à 79.
trip. Vous écoutez toujours Radio Nomade.
Yes, malgré la tempête Leucat, les saisies, la pression policière et les arrestations de nos camarades, nous sommes toujours à flot.
Alors Titch, quel personnage étonnant nous proposes-tu d'entendre cette semaine ?
Nous allons parler de répression policière. Pas de celle qui frappe ces derniers temps les radiolibristes, mais des interventions de la police du 17 octobre 1961.
Ah.
J'ai rencontré un rescapé, chez lui. Oui, un rescapé, c'est ainsi que l'on peut parler de Mohamed.
Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de témoigner. Vous étiez à Paris en octobre 61, le 17 octobre précisément.
Oui.
Que s'est-il vraiment passé ce soir-là ?
Ce soir-là, je participais avec mon petit frère à la manifestation pour dénoncer le couvre-feu imposé aux Algériens à cause des attentats à Paris. On défilait pacifiquement, mais le préfet de police a donné l'ordre aux policiers d'intervenir. Ils ont frappé sans discernement. Je ne sais pas combien il y a eu de morts, mais certainement beaucoup plus qu'on a voulu le dire. Parce que ce soir-là, la police a tué. Tué, oui.
Super, on n'est pas brouillé ce soir.
Mais qu'est-ce que tu fous ? C'est quoi cet enregistrement ?
Quoi ?
Les putes, les clodos, les travelots, tout ce que tu veux. Mais là, tu vas trop loin. Ce type accuse littéralement l'État d'assassinat.
Je donne à entendre la vérité.
Son visage était méconnaissable lorsqu'ils l'ont jeté dans la Seine. Même s'il avait su nager, je ne crois pas qu'il en aurait eu la force.
Police, ouvrez immédiatement. Ouvrez.
Shit, shit.
Bon, allez les gars, défoncez-moi la porte.
On était triangulés. On peut se casser par les trois. Let's go.
Mais le matos, on peut pas le laisser.
Mais pas le temps.
Pablo, qu'est-ce que tu fous, mène-toi.
Je ne peux pas.
Pablo,
j'ai le vertige, mais... je ne pourrais pas. Vas-y, casse-toi.
Mais écoute, vas-y, je te dis.
Allez, on va pas raconter la suite, on va seulement dire que l'amitié entre Alban et Pablo va être soumise à rude épreuve. Alors Jeanne Puchol, vous disiez, vous-même, vous avez à peu près l'âge des protagonistes. Hein. À l'époque, est-ce que le personnage d'Alban vous ressemble ?
Non, déjà on n'a pas du tout les mêmes cheveux.
Oui, non mais je ne parlais pas tellement physiquement pour ne rien vous cacher, même si vous décidez.
Excusez-moi, là c'est vrai que c'est très très malhonnête de ma part de dire ça parce qu'on est à la radio. Est-ce qu'il me ressemble ? Non, parce que bon, il y a quelque chose de puritain chez Alban et de très campé sur des positions. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, donc j'étais lycéenne, c'était quelques années après 68 et j'étais pas la dernière à partir en grève. Tous les printemps, tous les prétextes étaient trouvés pour que le lycée se batte en grève et qu'on finisse en fait à faire des sit-ins sur les pelouses du lycée et à partir en manifestation depuis le lycée de Champigny-sur-Marne. Mais pour autant, j'étais très sceptique et un petit peu réservée à l'égard de jeunes gens qui avaient peut-être 2 ans de plus que moi, hein, et que je trouvais tellement sectaire et tellement justement dans des idéologies que je trouvais bien sérieuse, quoi. Je pense que moi, ce qui m'a intéressée dans ces années-là, c'était plutôt le côté subversif, mais au sens très large, et y compris dans son sens le plus ludique, le plus joueur, aussi parce que c'était les années pilotes, les années où je lisais la bande dessinée de pilotes qui s'en donnait à cœur joie dans la satire, l'humour, la dérision, que c'était les années où le journal Libération est réapparu dans le paysage. Ça n'avait plus rien à voir avec le titre qui est des années 40, et où donc je lisais, on le lisait à la maison, parce que donc vous avez deviné, compris que j'avais des parents très ouverts d'esprit, et il y avait Le Monde, Libération, même en plusieurs exemplaires, parce qu'on était 4 à lire toute la presse.
D'accord, ah oui.
Et donc, la tonalité qu'il y avait dans le journal Libération, c'était plutôt ce côté déconneur, et c'était pas tant politique, le fait de donner effectivement la parole aux clodos, aux travelots, aux homos, aux toxicos, aux prisonniers, etc., etc. Donc c'était le côté, j'allais dire futile du gauchisme, mais qu'est-ce qu'il a fait du bien ce côté-là.
Mais cet esprit-là, on le retrouve justement, oui, à travers les cases de votre bande dessinée. Oui. Comment est-ce que vous avez rendu, graphiquement parlant, justement, l'atmosphère un peu folle, un peu ludique, à la fois pleine d'espoir et pleine de folie aussi, qui était celle de Paris à l'époque?
Ben justement, en plongeant dans mes souvenirs personnels. Parce que le dessin, surtout en bande dessinée, c'est pas juste une représentation à partir de documents photographiques ou autres. Bien sûr que je me suis aidé de documents photographiques, à ceci près que c'était des photos que j'avais faites moi-même dans ces années-là. Donc déjà, c'est... Mais c'est... Moi, je sais que je le nourris beaucoup avec des sensations et avec des souvenirs qui mettent un certain temps à remonter à la surface, en particulier tout ce qui touche le matériel, par exemple les platines. J'essaie d'abord de retrouver un souvenir personnel, un souvenir tactile, un souvenir avant d'aller chercher la documentation.
Oui. Mais il faut que le dessin soit réaliste, justement, voilà. par rapport au matériel technique. Il faut qu'il soit crédible.
Il faut qu'il soit crédible, mais il faut qu'il soit aussi, enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin qu'il soit ressenti à la base, c'est-à-dire vécu pour réutiliser un adjectif qui était très à la mode dans ces années-là.
Mais c'est vrai qu'il y a des gros plans effectivement sur les objets, hein, sur les micros, sur les enregistreurs, sur les transistors aussi. Ouais. Là, il y en a quand même en pagaille dans vos pages. On se dit forcément la radio, ça s'écoute d'abord. C'est pas forcément un objet graphique. Alors comment justement on fait pour passer cet obstacle-là, Jeanne Puchol?
Je vous dis par le côté tactile en fait, c'est-à-dire que moi, bien entendu, que l'aspect visuel des choses m'intéresse par la force des choses, mais je sais que ça passe par un aspect aussi de souvenir,
d'appropriation
ou de remise dans un contexte, par exemple, parce que j'ai vu un objet proche, un transistor proche, qu'il y avait chez moi, ou que j'ai eu par la suite quand j'étais étudiante, quoique j'écoutais peu la radio quand j'étais étudiante. C'est au niveau des allures des personnages principaux, les deux, Alban et Pablo, sont des sortes de synthèses de plusieurs camarades d'études. Synthèse au niveau de la coupe de cheveux, de la corpulence, et après de la manière dont ils sont habillés, parce que c'est assez discret, d'autant que la bande dessinée est en noir et blanc, mais chacun a un style de vêtement. Pourtant, Dieu sait que c'est cette époque-là, on n'était pas, il y avait pas les marques, il y avait pas tout ça, ouais. Mais quand même, il y avait des styles. Ces jeunes hommes qui m'entouraient quand j'étais étudiante, chacun avait son style.
Alors, il y a effectivement toute cette dimension graphique-là, et puis il y a aussi des personnages qui permettent Laurent Galandon d'inscrire le lecteur dans l'ambiance de l'époque. Et je pense, par exemple, au personnage de Douglas. Douglas, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. C'est quelqu'un qui a travaillé pour Radio Caroline, c'est-à-dire la radio pirate. Pionnière, hein, on va dire d'une certaine façon, et il a des mœurs qui aujourd'hui choqueraient énormément, des mœurs extrêmement libres. Il change de partenaire féminine très 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 souvent, et il en a souvent de très très jeunes avec lui.
Voilà, alors, d'abord Douglas, c'est vraiment un personnage pivot de cette histoire, hein, à plein de niveaux. Est-ce qu'il a travaillé sur Radio Caroline? C'est lui qui le dit, oui. Hein, après, chaque lecteur se fera bien son avis sur le sujet. Et puis, oui, il est dans son époque, finalement. Il y a eu quand même on avait mai 68, qui était quand même pas très très loin. Les premiers courants de libéralisation sexuelle sont là. Alors, pas forcément, tout le monde se les est pas appropriés de la même manière. Certains plus que d'autres, et en l'occurrence Douglas, c'est vraiment ça. Donc c'est pourtant il reste père, oui. Il est oui, en couple, il a un enfant, voilà, oui. Mais il est extrêmement volage.
Oui, voilà. Pour le coup, il a une sexualité débridée qui peut d'ailleurs parfois être un peu borderline quand même.
Hein, exactement,
ça peut lui valoir quelques ennuis,
et ça c'est aussi des choses qui me permettent de développer un certain nombre de ressorts dramatiques dans l'histoire.
Voilà, on va marquer une courte pause, Jeanne Puchol et Laurent Galandon. Et puis on va retrouver Thierry Lefebvre, qui est un historien des médias, et on va revenir avec vous et avec lui sur les grandes étapes de l'histoire des radios pirates, ensuite des radios libres, et on va voir également avec vous comment on est parvenu au fil du temps au paysage radiophonique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce sera juste après le flash d'information, et vous m'en direz des nouvelles.
Partagez vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous m'en direz des nouvelles? Jean-François Cader.
Radio-Canu.
VMDN avec Jeanne Puchol et Laurent Galandon, leur bande dessinée Interférence nous replonge dans la France giscardienne en nous racontant l'histoire de Radio Nomade, une radio pirate parisienne de la fin des années 70, radio inventée, Laurent Galandon nous le précisait dans la première partie de l'émission, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de la gauche et de François Mitterrand qui allait libérer les ondes. On va y venir dans un instant. Comme promis, Thierry Lefebvre nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes historien des médias, maître de conférence à l'Université Paris Diderot. Vous avez publié plusieurs livres sur la radio, parmi lesquels, avec Sébastien Poulain chez L'Harmattan, Radio Libre, 30 ans de FM, La Parole Libérée, avec un point d'interrogation. Alors justement, pour commencer, pourquoi ce point d'interrogation? Parce que quand on lit la bande dessinée, on se dit, bah oui, c'est une vraie libération de la parole.
Oui, bien sûr, mais comme vous le savez, il y a un organisme qui est venu se superposer en quelque sorte sur les radios associatives, qui s'appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et qui veille, c'est sa tâche, je ne suis pas là pour le critiquer, bien évidemment, mais qui veille à ce que la parole ne dérape pas, hein, combien de dérapages sont signalés au CSA, que ce soit la télévision ou la radio, et donc on peut estimer à partir de ce point, de cette création, 1989, la création du CSA, que la parole n'est pas totalement libérée, qu'il y a certaines paroles qui sont inaudibles parce qu'on ne peut pas dire certaines choses. Alors oui. Je suis pas en train de dire il faut dire tout, mais c'est la réalité, alors que justement, on le voit bien, à cette époque des radios libres, tout était possible, puisque de toute façon, il n'y avait pas d'encadrement.
Alors, cet ouvrage, Laurent Galandon, il vous a été utile dans la confection de votre album, avec Jeanne Puchol.
Ah bah, oui, oui. En fait, c'est probablement l'ouvrage sur lequel je me suis le plus appuyé pour travailler sur cette période, parce que finalement, quand on parle des radios pirates, on parle tout de suite des radios libres. Donc, souvent, oui. On parle...
C'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que bien souvent, on parle après...
C'est même
après...
pas du tout la même chose.
C'est pas du tout la même chose. Mais on parle souvent qu'après 80. C'est-à-dire que quand moi, j'ai commencé à évoquer autour de moi la thématique de ce livre, on me disait, ah oui, ben, il y avait telle radio, et c'était systématiquement après 80. Or, il y a cette période de 4, 5, 6 ans, enfin, ça dépend exactement
oui, quand 77, c'est qu'on a priori, le point de départ, hein.
À quel moment on démarre, où il y a tout ce mouvement de tous ces gens très disparates en plus, hein, parce qu'on va avoir des gens de droite comme des gens de gauche, va vraiment y avoir comme ça, ça va être ouais, d'une grande richesse d'orientation et qui va faire que 81, parce qu'en fait Mitterrand va s'approprier le sujet en 80, hein, parce que voilà, ça devient
porteur,
un sujet politique.
Oui, oui.
Voilà, c'est une forme d'opportunisme, mais bon, tant mieux. Voilà, ça a quand même généré des choses, donc oui. On va pas.
Mais alors justement, attendez, on n'est pas encore en 80, là, restons en 77, justement, quelques secondes, Thierry Lefebvre. Bon, c'est vraiment un phénomène de masse, ces radios pirates?
Non.
Non, pas du tout. C'est un phénomène très parisien ou pas?
Non, c'est un phénomène sur toute la France, dans à peu près toutes les régions, même en Corse, je tiens à signaler, puisqu'il y en a eu 3 ou 4 qui ont opéré là-bas. Donc c'est un phénomène qui tourne autour des grandes agglomérations en général. Donc vous en avez du côté de Lyon, vous en avez du côté de Bordeaux, etc., Toulouse et bien d'autres. Mais c'est pas un phénomène de masse. Ce sont pour la plupart des gens qui sont aguerris au militantisme. Et ça peut être un militantisme de gauche comme un militantisme de droite, puisqu'on a des giscardiens qui vont se rentrer en quelque sorte dans la brèche à partir de 1977.
Donc la première raison, c'est effectivement le combat politique.
Oui.
L'idée, c'est de militer, c'est de diffuser des idées à travers les ondes.
Diffuser des idées, ça se discute. Le but, c'est de faire tomber le monopole.
Voilà.
C'est ça. C'est donc de faire une action politique, si possible collective, avec des points de vue différents, pour faire évoluer la société et faire tomber le monopole de la communication et en fait l'oligopole, hein, comme on l'appelle à l'époque, c'est-à-dire d'un côté Radio France et de l'autre côté les radios périphériques, hein, RTL dont on a parlé tout à l'heure, Europe 1 et RMC.
Mais il y a aussi donc la deuxième jambe évoquée par le personnage de Pablo dans l'album. C'est pas tellement la dimension politique là. Qui le motive, mais c'est plutôt justement la dimension musicale.
Tout à fait. Et on peut prendre un exemple, on retrouve un peu la tonalité dans la bande dessinée, c'est Radio Ivre, par exemple, qui était une radio vraiment axée sur la musique, le reggae. Hein. Le reggae a vraiment émergé à Paris grâce à Radio Ivre, qui était une radio illégale. Et donc, il y en a certains qui veulent effectivement faire des radios musicales, mais pour présenter leur type de musique qu'on n'entend pas sur Europe 1, sur RTL, encore moins.
Mais alors, est-ce que c'est une aventure de mec, Jeanne Puchol? Parce que vous, qui êtes une dessinatrice féministe, et qui ne vous en cachez guère, vous avez même milité pour ça, on se rend compte quand même que toutes les femmes de l'album sont cantonnées à des rangs secondaires, quoi. C'est les mamans, c'est les petites amies de Douglas, c'est les copines de plage.
Alors, oui et non, c'est-à-dire que pour moi, cet aspect-là du récit auquel j'ai été sensible quand j'ai commencé à le dessiner, je me suis dit que c'était finalement assez bien vu, parce que le fait est que ces années 70 ne brillaient pas par leur féminisme. Le MLF, il a quand même démarré en France quelques années après 68, et pour des bonnes raisons, c'est que en 68, les jeunes filles, les jeunes femmes, elles étaient le repos du guerrier qui lui était sur les barricades, et lui allait sauver le monde. Donc non, moi j'ai trouvé que c'était au contraire assez bien vu.
Oui, et pourtant la figure tutélaire de l'époque, c'est d'une femme, elle s'appelle Caroline. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Radio Caroline. Vraiment la pionnière des radios libres, hein, Thierry Lefebvre, cette radio Caroline qui émettait donc depuis un bateau itinérant en mer du Nord.
Alors pionnière des radios pirates.
Hein, oui, pionnière des radios pirates, absolument. Avec les radios libres. Oui, vous avez raison.
Donc c'est pas la première, hein, il y en a eu quelques-unes avant, à la fin des années 50. Il y a eu toujours des émissions clandestines, hein, depuis les années 20 même en France, mais ça n'a jamais été un mouvement de masse. Mais Caroline a effectivement brisé une sorte de tabou autour de ces radios qu'on entendait déjà relativement peu, et il va y avoir un effet de focalisation de par le fait que déjà il y a des accords avec des maisons de disques, première chose, qui vont écouler leur musique pour jeunes qu'ils ne pouvaient pas écouler sur la BBC, et puis des accords également avec des publicitaires, et c'est la publicité qui va faire fonctionner, au moins dans un premier temps, jusqu'à la loi de 67, aussi bien en Grande-Bretagne qu'en France, dans l'Europe entière, qui va faire fonctionner ces radios-là qui vont effectivement générer beaucoup d'argent jusqu'à ce que on attaque les donneurs d'ordre.
Ah oui, mais c'est extraordinaire, donc on n'est pas du tout dans la radio anard et un peu gauchiste comme les personnages de la bande dessinée, qui ont cette radio-là comme modèle.
Voilà, on va dire que c'était des radios délurées. Voilà, c'est plutôt déluré que anard, c'est-à-dire que le ton était le ton jeune, on employait des mots qu'on n'employait pas à la BBC à l'époque, et surtout on écoutait des musiques qui, elles, pouvait remettre en question l'ordre, que ce soit les Rolling Stones ou d'autres. Il y a certaines chansons quand même, quand on les écoute attentivement, on sent bien que c'est pas tout à fait dans la tonalité de la BBC.
Oui. Et c'est cette radio, donc Radio Caroline, qui a donné à vos deux héros, Jeanne Puchol et Laurent Galandon, l'idée donc de lancer leur radio nomade. Alors vous dessinez donc d'ailleurs vos deux héros et leur ami Douglas, qui serait, alors on va donc employer le conditionnel puisque Laurent Galandon n'est pas là convaincu lui-même, un ancien de Radio Caroline, qui serait donc un ancien de cette radio. On les voit tous les trois installés comme ça, un petit émetteur dans un appartement sous les toits, on monte ensuite sur le toit, on relie tout ça à une antenne. Ça a l'air extrêmement simple, techniquement parlant. Laurent Galandon.
Alors, c'était peut-être un poil plus compliqué que ça ne l'évoquait dans la BD, mais en même temps, c'était pas très très compliqué. Hein. C'était un peu du bricolage. Bon, après, nous, on est sur une histoire romancée, donc l'idée n'était pas d'être sur le détail technique. D'abord, je suis pas très compétent en la matière, hein, je vais pas mentir.
Il manque même pas
un bouton. C'est la faute de Jeanne.
Voilà. J'allais dire, ça m'étonne pas. Ça,
non, mais Thierry Lefebvre,
ça m'étonne pas qu'il manque un bouton, parce que je me suis moi-même posé la question. À partir de la description qui est faite de l'émetteur, je me suis dit, bon, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, l'entrée, la sortie, machin, mais quand même, il doit manquer quelque chose.
Oui, mais alors Thierry Lefebvre, c'était pas sorcier de lancer une radio pirate?
Il fallait trouver l'émetteur. C'est la première chose. Donc c'est raconté avec le voyage en Italie, hein, pour une raison très simple, c'est qu'en Italie, le mouvement des radios libres est antérieur de un an et demi. La chute du monopole, de la RAI, est pratiquement immédiate au bout de quelques mois, ce qui fait que les radios sont tolérées en Italie et elles sont de plus en plus nombreuses. Hein. Je vous rappelle que Berlusconi en particulier a fait son empire à partir de ça. Et comme elles sont de plus en plus nombreuses, on les entend de moins en moins bien parce qu'elles se brouillent mutuellement et donc il faut augmenter en puissance d'émetteurs. Et donc il va y avoir tout un réseau d'émetteurs de seconde main, d'occasion ou bricolés de puissance bien moindre qui vont arriver en France et qui vont permettre donc de faire fonctionner ce mouvement des radios libres.
Qui rendait ainsi hommage Radio Pirate à sa manière en 1991, pas mal d'ironie, pas mal de justesse aussi, hein, peut-être, bon bref, on s'amusait beaucoup, mais on risquait quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on risquait d'ailleurs quand on était pris, Thierry Lefebvre ?
Ça dépend. Hein. J'aurais une petite nuance par rapport à la bande dessinée, c'est que d'après tout ce que j'ai vu, il n'y a jamais eu d'acte de violence, de baffe en particulier à l'égard de Pablo, puisque c'était une police spéciale qui s'occupait de ça, la police des communications radiophoniques, la PCR. C'était des gens qui savaient parfaitement à qui ils avaient affaire. Effectivement, tout le monde était sur écoute. Les adresses étaient repérées, etc.
Oui, parce qu'il y a un petit côté film à suspense hein, dans la BD.
Oui,
aussi.
Oui, bah ça, c'est
limite espionnage.
C'est une licence poétique.
Oui, bien sûr.
Heureusement.
Voilà. Mais quand même, Laurent Galandon, on se dit que bon, soit c'est du désintéressement total, soit c'est un peu de naïveté, parce que finalement, ces radios pirates-là, elles touchaient très très peu de monde. D'ailleurs, ils s'en moquent eux-mêmes.
Hein, oui, c'est Douglas le dit à un moment donné, hein, c'est-à-dire que je ne sais plus si c'est Douglas ou un autre personnage.
Oui, c'est Douglas, dit, effectivement.
Vous avez peut-être été écouté par 5 personnes et que dans le cadre des interviews aussi où il y a un échange, où ils disent les radios, on en parlait plus qu'on ne les entendait, finalement. Mais je pense qu'il y avait, restait toujours cette espèce d'image, pour le coup, de Radio Caroline qui planait. C'est-à-dire que Radio Caroline, comme le dit Douglas à un moment donné, c'est-à-dire qu'au début, ils émettent, puis quelques jours plus tard, ils se rendent compte que c'est là, pour le coup, des millions d'auditeurs. Donc il y avait toujours cet espoir à un moment donné que petit à petit leur radio se ferait une place parmi les autres. Pourquoi ? Comment ? il y avait l'espoir.
Alors arrive 81, Thierry Lefebvre, et donc François Mitterrand qui annonce la libération des ondes. On entre donc dans l'ère des radios libres, cette fois-ci, et non plus des radios pirates. Ça veut dire quoi, la libéralisation des ondes?
Alors, on va quitter l'ère des radios libres, en fait, en 81, puisque les radios libres, on peut les définir de 77 à 82, très précisément, le moment où il y aura la première loi, et puis il y en aura une en 83. Donc, que signifie ce moment? C'est que Mitterrand a promis, quand on relit son programme de campagne en 81, il a promis aux associations qui faisaient de la radio libre de les intégrer éventuellement dans un service public. C'est ça qui est écrit.
Ah oui, donc c'est pas la liberté totale.
Pas tout à fait la liberté totale, avec une gestion un peu complexe. Mais en pratique, tous les acteurs des radios libres se disent, Giscard s'en va, Mitterrand arrive, on va en profiter. Bon exemple, c'est Skyrock, qui s'appelait pas Skyrock à l'époque, Pierre Bélanger, qui plante son émetteur le 10 mai 1981 et qui l'envoie avec une puissance phénoménale. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir Énergie, il va y avoir Nova, il va y avoir toutes ces radios et le mouvement est irréversible.
C'est la loi du plus fort, quoi. Chacun pousse son émetteur au maximum pour se faire sa place sur la bande FM?
Pas au début, parce que toutes les places ne sont pas prises, en particulier à Paris, qui est l'objectif majeur. Mais au fur et à mesure, oui, il y en a tellement que là, on va voir des émetteurs extrêmement puissants, comme ceux d'énergie en particulier, qui vont tuer d'autres radios à côté, des petites radios libres qui ne vont pas pouvoir émettre dans de bonnes conditions.
Et parmi les radios qui ont marqué l'époque, il y a Carbone 14, dont les animateurs sont bénévoles et recrutés par une petite annonce passée dans Libé, justement dans le quotidien Libération que Jeanne Puchol évoquait il y a un instant, une radio lancée en décembre 81.
Les gens, ils ont un peu stylé. Ah ouais, il est un peu tard, mais c'est quand même la fête, merci. Tiens, bonsoir, vous êtes bien sûr Carbone 14, la radio qui vous encule par les oreilles.
Voilà, il y a d'autres slogans aussi qui étaient un petit peu du même acabit. Thierry Lefebvre, vous avez consacré un livre à Carbone 14, un ton débridé, pour le coup, c'est le moins qu'on puisse dire, on l'a compris. Joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Libertaire aussi, provocateur aussi. Le but, c'est quoi? C'est de repousser les limites?
Oui, c'est repousser les limites. C'est des tout jeunes gens, donc Jean-Yves Lafesse qui va débuter effectivement dans cette radio.
Super Nana aussi.
Super Nana aussi, qui est un personnage mythique, une femme qu'on va beaucoup entendre au début des années 80. Et quelques autres. Et donc, effectivement, c'est une radio emblématique de cette période qui va de 81, donc le moment où ça pullule, et surtout, il n'y a plus de répression, ou très peu. C'est-à-dire qu'on arrête de brouiller les radios, on ne fait plus intervenir les CRS, comme ça s'est fait rarement, mais ça s'est fait de temps en temps. Et il va y avoir ensuite toute une période qui va jusqu'en 83, juillet 83, où va être votée la loi qui va mettre en place le régime actuel des radios locales privées, c'est le nom qu'on leur donnera en pratique, et pendant toute cette période, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, et c'est le cas en particulier de Carbone 14, qui a poussé très très loin le bouchon, et qui est, de ce point de vue-là, exemplaire de cette interface, on va dire, entre les radios libres et les radios locales privées, et c'est une période très importante.
Et donc c'est au début de cette période des années 80 que sont posées les bases du paysage radiophonique actuel?
À partir de 83, donc il y a création d'une haute autorité de la communication audiovisuelle, qui est l'ancêtre du CSA en pratique, et qui va essayer de superviser le développement de toutes ces radios, et puis on interdit dans un premier temps les réseaux, c'est dans la loi, mais il y a un certain nombre de radios qui vont quand même créer des réseaux, en particulier donc Énergie, Fun Radio, qui est une scission d'Énergie, Skyrock, dont on a parlé, qui prendra ce nom-là à partir de 86.
Oui, c'est-à-dire que ces radios qui se voulaient des radios libres, petit à petit, elles sont devenues des radios commerciales, quoi. On était assez loin de l'esprit du début, quand même.
Ah, bien sûr, oui. La plupart des pionniers, on va dire, soit vont abandonner la radio dès 81 pour entrer dans des petits jeux politiques, soit vont essayer de produire de la radio pendant quelques années, mais vont s'effondrer à partir de 83-84. La plupart ont disparu, sauf les radios très militantes comme Libertaire, par exemple, qui est un résidu, on va dire, de cette époque, qui est créée, elle aussi, juste après 81.
Alors, ils ont essayé d'interdire, hein, je crois, de mémoire. Ils ont essayé de la... Ils voulaient pas lui donner son droit d'émettre,
voilà,
semble-t-il.
Voilà, ouais, c'est assez compliqué, mais elle voulait surtout pas se marier avec d'autres radios, parce qu'il y avait tellement de radios qu'il fallait les réunir sur une même fréquence.
Mmh. Alors, parmi les radios amateurs d'aujourd'hui, il y a les radios scolaires, par exemple. Notre reporter Marie Jiquels vient de s'intéresser à la radio Clip, la radio des écoles, collèges et lycées de Paris, installée au lycée Galilée, dans le 13e. C'est Gwenaëlle Guilherme qui la dirige et qui accueille les classes avec en régie Margot Letard. Elle recevait toutes les deux, quand Marie est allée, une classe de lycée. Reportage.
Vous êtes prêts ? C'est bien, je vous vois qui souriez. Ça s'entend, le sourire à la radio. C'est parfait, ça donne une belle énergie à la voix. 1, 2, 3.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans notre émission sur les plateaux de Radio Clip.
Ce matin, à 7 ans, n'est plus une élève du lycée Henri Bergson. La voici présentatrice d'une émission de radio consacrée au slam et concoctée par toute sa classe. Assise à côté d'elle en studio, casque sur la tête, Gwenaëlle Guilherme la guide et la reprend.
On va t'arrêter, c'est très bien. Tu peux prendre beaucoup plus de temps. La largeur de votre main entre le micro et la bouche.
Les lycéens défilent au micro.
Je viens de faire la présentation de notre émission. J'avais un peu peur. C'était pas facile, mais c'est comme si tu es avec tes amis, comme tu parles.
Alors, qu'est-ce que ça fait d'être ici ?
C'est bien. J'apprends beaucoup de choses.
Est-ce que tu avais le trac devant le micro ?
Oui, un peu.
Pourquoi ?
Je sais pas. Elle fait peur, je crois.
Comme chez nous, vous m'en direz des nouvelles, il y a un invité pour cette émission, un slameur. Et comme vous, Jean-François, nos apprentis journalistes ont préparé leur interview.
À présent, nous allons poser quelques questions à Yuré Romao.
Alors moi, je préférerais comme introduction, et à présent, nous avons la chance d'avoir avec nous Yuré Romao. Voilà. Un, deux, trois.
À présent, nous avons la chance d'avoir Monsieur Yuré Romao. Bonjour.
De quel pays venez-vous ?
L'heure d'antenne est dense. En plus de l'interview, les élèves enregistrent des lectures de poèmes et même une chanson. Une sortie radiophonique qui devrait aider ces élèves, apprenant le français, à progresser. On écoute leur professeur, Madame Calor.
C'est une manière d'apprendre ludique. C'est quelque chose que les élèves aiment beaucoup.
Vous travaillez leur voix ?
On a travaillé aussi l'articulation, leur voix. Et ils font beaucoup de progrès en lecture, en prononciation. Tout ça.
C'est au début des années 2000 que Gwenaëlle Guilherme, documentaliste dans un lycée professionnel, décide de lancer Radio Clip.
Très vite, je me suis aperçue que les élèves acceptaient de travailler, d'écrire, de faire des recherches pour une émission de radio, là où ils auraient ronchonné si on leur avait demandé de faire un devoir sur table.
Passer au micro, un exercice bénéfique pour les jeunes qui travaillent leur aisance à l'oral, décortiquent le travail journalistique et font entendre leur voix.
Après les attentats, effectivement, la ministre de l'Éducation nationale de l'époque a estimé qu'il fallait un média par établissement pour que les élèves puissent s'exprimer, qu'ils aient eux aussi une vue sur l'actualité, etc. Donc, on m'a permis de tenir cette radio à plein temps, ce qui m'a ouvert les ailes et qui a permis donc de développer des projets. On reçoit plus de 2000 élèves par an. On fait de tout à Radio Clip. On a aussi bien des émissions littéraires que des émissions musicales. Que des bulletins d'information, que des revues de presse.
L'émission se termine, la pression retombe. Nos animateurs d'une journée pourront bientôt écouter leur programme diffusé sur la web radio de Radio Clip.
Chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez passé des bons moments avec nous et que l'émission vous a plu.
Ouais, et la note d'émission n'est pas encore terminée, alors restez encore avec nous quelques minutes. Thierry Lefebvre, il se trouve que vous venez de publier chez Glyph un studio de télévision à l'école avec Cécile Reynal, de télévision cette fois-ci. Alors je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Ces radios ou ces télés en milieu scolaire, c'est juste pour faire un peu joujou ou bien c'est un réel outil pédagogique ?
Ah ben, c'est un réel outil pédagogique. Ça permet déjà de plonger, on va dire, les scolaires dans le monde dans le qui est le leur, qui est un monde extrêmement médiatisé. Jusqu'à présent, enfin, le phénomène n'est pas nouveau, hein, puisque le studio de télévision qui est évoqué dans le livre date de 50 ans quand même, dans les années 60, on en parlait déjà. Ça permet effectivement de passer derrière le micro, derrière la caméra, de voir quelles sont les contraintes du média, que ça nécessite un maintien, pas comme dans la cour de récré, qu'il faut s'exprimer d'une certaine manière. Et c'est très très formateur, étant dans un master à l'université Paris Diderot qui travaille avec des scientifiques, enfin des étudiants en sciences, eux n'ont pas eu cette expérience. Et donc quand on les fait venir, on les met devant une caméra, ou derrière une caméra, devant des micros, etc. Et à chaque fois, c'est une joie incroyable pour eux de découvrir ce monde qu'ils n'avaient jamais touché jusqu'alors. Donc, ce sont des initiatives qu'il faut vraiment récompenser.
Oui, étonnant hein, quand même, Laurent Galandon, de voir justement la passion que ces jeunes peuvent avoir aujourd'hui à parler dans un micro.
Oui, parce qu'il y a un tissu en France de plus de 600 radios associatives qui font un travail de fond avec des associations, le milieu scolaire, et qui les mettent en situation. Et c'est très très pluridisciplinaire de se retrouver derrière un micro, parce que c'est pas seulement parler. On sait tous, vous avez moins de difficultés que nous, mais comment c'est difficile de se retrouver d'un seul coup derrière un micro, de pas bafouiller, de préparer une émission, de préparer des questions, et ensuite d'être capable de les exprimer, d'essayer de capter ses auditeurs.
Et de mettre tout ça en onde aussi,
parce qu'il y a aussi toute la dimension technique
qui est derrière.
C'est extrêmement pluridisciplinaire, et donc c'est d'une richesse incroyable. Et donc là, il y a les petites, moi ce que je les appelle un peu les petites filles des radios pirates, elles sont 600 en France, qui continuent comme ça à mailler le terrain, et c'est génial.
Merci beaucoup à tous les trois. L'album Interférence de Jeanne Puchol et Laurent Galandon est disponible chez Dargo. Merci également à vous, Thierry Lefebvre. Je rappelle donc les références de votre dernier livre avec Cécile Rénal, un studio de télévision à l'école. C'est aux éditions Glyph. Demain, Dominique Marny pour son livre L'amour fou à Paris. Et vous m'en direz des nouvelles.